Bonjour à tous. Refléter, voilà, on va parler d'un attribut de Dieu ce matin, l'amour, refléter l'amour. On est toujours dans 1 Jean, et je commencerai par cette petite anecdote, qu'en première année d'institut biblique, quand j'étais interne, on était une vingtaine d'étudiants à habiter ensemble, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Et donc il y avait le côté fille, le côté garçon, bien sûr. Les filles, on était dans le dernier étage, sous les combles d'un bâtiment. C'était très, très cosy, très sympa. Mais on venait toutes d'endroits très différents, d'arrière-plan opposé, presque même des fois. Mais voilà, où la cohabitation était une vraie richesse et était plein de couleurs, on va dire. C'était passionnant. Mais je me souviens d'une relation en particulier. Je ne savais pas trop comment la gérer. J'appellerai cette fille Déborah. Voilà. Avec cette jeune fille, assez rapidement, j'ai remarqué qu'il y avait un souci entre elle et moi. Dès que je souhaitais lui parler, dès que je voulais m'adresser à elle, le ton était assez froid, un peu distant. Et elle n'avait clairement pas envie de s'adresser à moi. Et je me rendais compte que ce n'était pas forcément son caractère, mais c'était qu'avec moi, parce qu'avec les autres, elle était complètement différente. Et plus les semaines passaient, et plus la relation devenait difficile à vivre de mon côté. J'ai tenté plusieurs fois de lui demander ce qui n'allait pas, qu'est-ce que j'avais fait, ou qu'est-ce qui, voilà. Mais rien. Elle restait muette sur le sujet. Non, tout va bien, Nathalie, t'en fais pas. Et je voyais bien que voilà, ça s'empirait de plus en plus. Et comme les échanges devenaient de plus en plus tendus, ben, finalement, je les évitais. Mais comme on habitait ensemble, ce n'était pas toujours évident. J'avais qu'une envie, en fait, c'était de fuir. Et le rejet qu'elle exprimait vis-à-vis de moi, ben, ce n'était pas forcément agréable à vivre, quoi. Et c'était lourd à porter. Voilà. Finalement, simplement, on ne reparlera pas de ça plus tard, mais à la fin, j'ai découvert après coup que j'avais dit une parole qui l'avait blessée et que voilà, ça avait amené cette relation difficile tout au long de cette année-là. J'avais eu une parole maladroite, mais dont je n'avais pas eu conscience. Mais ce dont je voulais vous faire prendre conscience, enfin voilà, en tout cas, c'est la relation qui, des fois, j'imagine que vous avez aussi ce type de relation parfois et où on n'est pas forcément très confortable. Et ce matin, on va parler donc d'une relation particulière, mais celle de Dieu avec nous, celle de Dieu avec ses enfants. Une relation d'amour qui, finalement, est assez atypique. Dans l'épître de Jean, que l'on suit actuellement, Jean parle beaucoup, beaucoup de l'amour, et pas que dans son épître, dans son évangile aussi, d'ailleurs. Mais il parle aussi, au même titre que la vérité, l'obéissance, voilà, c'est vraiment les trois thèmes qu'il y a dans cet épître. Il les prend un peu comme des tests, pour savoir si ceux qui suivent le Seigneur et ceux qui ne le suivent pas. Et dans le chapitre de 4 de la première épître de Jean, pardon mamie, je ne t'ai pas donné le texte, il est déjà là. Je lis dans le sommaire, j'espère que... En tout cas, dans le chapitre de 4 de cette première épître, il parle notamment de l'amour. Et on va se concentrer seulement sur la deuxième partie du chapitre. La première partie parle plus de la vérité et de l'obéissance à la parole, mais on va plutôt s'attarder sur l'amour. Il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc je vous invite à prendre au chapitre 4, le verset 7, un passage vraiment dense. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré son amour, a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. » Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a vu, mais si nous nous aimons les autres, Dieu demeure en nous, et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos propres yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voilà pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute la crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Fin de la lecture. Beaucoup de choses. Voilà, dans ce texte, hein, y a peut-être certains versets qui sonnent un peu comme des rengaines que l'on entend. Peut-être pour certains d'entre nous, que l'on entend des fois depuis notre enfance. Hein. Dans ce chapitre, Jean il parle notamment de l'amour à avoir les uns envers les autres, de l'amour comme témoin de la présence de Dieu au milieu de nous, mais il parle aussi de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est précisément sur ce dernier point que je voudrais revenir ce matin. L'amour que Dieu a vis-à-vis de nous. Alors, peut-être que vous allez vous dire, mais quel lien il y a avec l'anecdote que je viens de vous raconter ce matin. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, l'amour, c'est sans doute le mot qui est un petit peu édulcoré aujourd'hui, avec un sens qui est assez large. Hein. On aime aussi bien passer du temps entre amis qu'un bon plat, qu'on peut aimer aussi la mousse au chocolat ou le rugby. Un acteur, on peut aimer un acteur, un livre. Enfin voilà, on peut aimer beaucoup de choses, même sur les réseaux sociaux. Hein, on aime une phrase qui a été dite au passage, on aime juste une photo, on like, on aime un commentaire, on tag. Même les messages reçus, les petits SMS, on met un petit cœur. Au final, on aime beaucoup. Mais je crois que le vrai sens de l'amour, il a quand même été gardé dans cette petite phrase « je t'aime ». Là, c'est autre chose. On les réserve seulement pour quelques personnes. Et il a une portée tout de suite un peu plus profonde. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aimer tout le reste. Hein. C'est simplement que le sens est un petit peu différent. Dans notre texte, donc, ce matin, on a plusieurs éléments d'explication sur l'amour de Dieu. D'abord, d'où vient cet amour? En quoi consiste cet amour? Et enfin, comment est-ce que se concrétise cet amour? D'où vient cet amour? Au verset 8, il était dit « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Cette petite phrase, elle va être reprise plusieurs versets plus loin. Au verset 16, « Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Dieu est amour. Trois mots qui sont forts de sens. Jean précise que celui qui demeure en Dieu demeure dans l'amour. Si on est à Dieu, on est à l'amour. En fait, Dieu est amour, mais c'est aussi lui-même l'amour. Dieu est l'amour. Il est amour, mais il est aussi lui-même l'amour. L'amour elle ne se trouve pas ailleurs qu'en Dieu. L'amour, c'est un des attributs de Dieu. Un attribut, c'est une caractéristique spécifique de la nature de Dieu. Par exemple, Dieu est saint, Dieu est immortel, Dieu est juste, Dieu est amour. Mais Jules-Marcel Nicole, il va un petit peu plus loin, lui, il dit que c'est plus qu'un simple attribut. L'amour, ça résume le caractère de Dieu. Les autres attributs, ils trouvent leur base, ils trouvent même leur couronnement, d'après ce qu'il écrit. En fait, tous les critères qui caractérisent Dieu trouvent leur sens dans l'amour. Sa justice, elle est pleine d'amour. Sa sainteté, elle est dans l'amour. Sa fidélité, elle témoigne de son amour. En fait, chaque attribut est vraiment en harmonie avec les autres. C'est la nature même de Dieu. Et si on cherche davantage à comprendre cet amour, on se rend compte qu'il n'est pas seulement tourné vers sa création. Ce n'est pas juste vers nous que Dieu aime. Mais son amour se vit d'abord et avant tout entre Jésus et le Saint-Esprit dans la Trinité. Il était déjà bien avant la création. Il s'aimait déjà. En fait, depuis l'éternité, Dieu déborde d'amour. Il est lui-même cet amour-là. Dieu fait plus que juste l'incarner, le porter, le promouvoir, le concrétiser. L'amour, c'est lui. Il n'y a pas d'autre amour véritable ailleurs qu'en lui, ça n'existe pas. La nature de Dieu, c'est l'amour. J'ai essayé de trouver une image qui explique ce concept. Si vous en avez une, vous pourrez m'en donner, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais voilà, de se dire qu'il n'y a rien d'autre. Enfin, Dieu est l'amour, on ne peut pas le trouver ailleurs. C'est sa nature à lui. Et en lisant certains versets, j'ai essayé de remplacer le mot « amour » par Dieu. Et voilà, ça fonctionne très bien. Ça pourrait être un autre nom de Dieu. On dit Dieu, voilà, Seigneur, Éternel, Amour. Ça pourrait être un autre prénom, enfin une autre manière de l'appeler finalement. Il est l'amour. Alors, en quoi consiste cet amour ? Au verset 10, on a la réponse à la question, c'est écrit. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu, comme nous contre nous, en s'offrant pour nos péchés. Et puis plus loin, c'est dit aussi, Dieu nous a aimés le premier. L'amour dont on parle, n'est pas toujours celui que nous vivons, ou celui dans nos relations au quotidien, ou celui qui nous fait vibrer. On connaît l'amitié, la passion, aimer quelqu'un ou quelque chose qui peut nous le rendre finalement d'une manière ou d'une autre. Dans l'amour, finalement, qu'on le veuille ou non, il y a souvent une attente derrière, un désir à satisfaire, il y a un partage, il y a une certaine réciprocité. Et dans mon anecdote, par exemple, dans cette relation, pourquoi cette relation était difficile pour moi ? Parce qu'il n'y avait pas de retour, il y avait même du rejet. Donc, comment aimer une personne comme ça qui ne veut pas de nous, finalement ? C'est difficile. Et dans notre texte, Jean dit que l'amour consiste en ce que Dieu nous a aimé le premier, mais pas seulement cela. Il nous a aimés alors même que nous n'étions absolument pas aimables à ses yeux. D'ailleurs, il a dit qu'il a dû apaiser sa colère vis-à-vis de nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne nous aimait pas. En fait, la différence de nous, l'amour de Dieu découle de sa nature, elle découle de lui. Il souhaite à tout prix le bien de ceux qu'il aime, même si celui-ci, et surtout quand celui-ci n'en est pas digne, enfin, parce qu'on n'en est pas digne finalement, parce que personne n'est digne de son amour. Et dans l'Ancien Testament, l'image que Dieu il utilise souvent pour parler de cet amour-là, il prend cette image du mari qui aime sa femme, même si elle le trompe délibérément. Un amour qui aime parce que c'est sa nature et non pas parce qu'on est aimable. Alors, pour mieux comprendre, voici quelques éléments qui décrivent l'amour de Dieu. L'amour, il est clairvoyant. On dit l'amour rend aveugle. En fait, non, l'amour de Dieu, il est clairvoyant. Il aime, même en connaissance de cause, en connaissant tout de nous. L'amour, il est saint. Il est saint. Il n'est pas indulgent vis-à-vis de notre péché. Il ne peut pas tolérer notre péché. Mais il nous aime quand même. C'est un amour jaloux. Là, ça parle de l'intensité de l'amour de Dieu. Dieu seul peut être jaloux, dans le sens où il veut qu'on soit à lui entièrement, sans partage, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, qu'il n'y ait pas d'autre concurrent à ses côtés. Son amour, il est éternel. Dès le début, dès la fondation du monde, il a voulu et rien ne peut nous en séparer, même pas notre péché. Rien, absolument rien. Il est là. Il est acquis depuis le début. L'amour, il est universel. C'est marqué aussi dans sa parole en Matthieu qu'il fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Il n'y a pas... l'amour que pour ses enfants, non. Il y a un lien privilégié avec le peuple de Dieu, bien sûr, avec le peuple qui s'est choisi en Israël et puis après avec nous, ses enfants, mais il en fait aussi profiter les autres. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, si nous revenons un peu à notre anecdote de tout à l'heure, imaginez que vous aussi, vous soyez comme moi dans une relation avec une Déborah qui est un peu à sens unique. Vous faites beaucoup pour l'autre personne, pour Déborah. Vous vous donnez, vous essayez par tous les moyens de maintenir cette relation avec une personne. Et que malgré tout, ce que vous recevez, c'est peut-être pas de retour, ou alors des retours négatifs, ou alors presque même du rejet. En fait, ça donne pas envie d'en faire plus. Pourquoi poursuivre une telle relation ? En fait, on a juste envie de quitter le navire. À quoi bon entretenir une relation avec quelqu'un qui ne veut pas de nous, en fait ? On ne trouve pas de bénéfice à ça. Et très souvent, ben, on abandonne la relation pour aller voir ailleurs. Et ben, Dieu, lui, n'a pas quitté ce navire-là. Et cette personne, Déborah, en fait, c'est vous, c'est moi. C'est celui ou celle qui, finalement, ne faisait pas d'effort dans la relation, qui a même rejeté Dieu. C'est précisément chacun d'entre nous, en fait. Je n'ai pas fait mieux qu'elle vis-à-vis de Dieu. Tout comme elle m'a rejeté, ben à un moment donné aussi, j'ai rejeté Dieu. Lui, il n'a pas fui. Loin de là, il a continué à aimer. Il a continué à aimer, encore et encore, toujours plus. Enfin, toujours plus. C'était déjà plus dès le début, mais toujours. Dieu, il a dit lui-même, hein, Dieu a tant aimé le monde, même si celui-ci était révolté contre lui. Alors que les hommes ne faisaient aucun retour positif à Dieu, des retours négatifs, du rejet, Dieu, il est venu pour mourir à notre place. Quel amour sécurisant! Même au pire moment de la relation que l'on avait avec Dieu, à savoir quand on le rejetait, encore une fois, eh bien Dieu, il était là. Dieu, il est mort à ce moment-là pour nous. Quelle incompréhension. Enfin, quelle, je ne sais pas, ça me dépasse. Et comment cet amour alors se concrétise-t-il ? Quand j'ai lu ce passage la première fois, pour l'étudier, il y a un verset en particulier qui m'a interpellée. C'est le verset 18. D'ailleurs, je me suis un tout petit peu arrêtée dessus quand j'ai lu tout à l'heure. Peut-être que vous avez prêté attention. Dans le verset 18, il est écrit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment, d'une punition, si on peut dire. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. » Alors, on pourrait le lire en remplaçant le mot « crainte » par « peur ». C'est pas la crainte... comment on peut dire, qui révère Dieu, la crainte de Dieu dans le sens, dans le bon sens. Là, pour le coup, c'est vraiment la crainte, la peur. Et finalement, quand on voit toute cette épître, la crainte, elle est sous-jacente dans tout l'épître de Jean, la crainte de ne pas être enfant de Dieu. C'est une église qui a des enseignants qui ont des doctrines peut-être un peu différentes des leurs. Donc, du coup, la crainte d'être trompé par ceux qui, de plus savoir qui est vraiment Jésus, la peur d'être amené dans l'erreur, de ne plus avoir cette certitude du salut. C'est toute cette crainte-là qui est aussi derrière, avec ses lecteurs de Jean. Et Jean tente de rassurer. La crainte suppose qu'il y a une punition à la clé, qu'il y a un danger, qu'il y a un risque de souffrir, d'avoir mal. La peur de l'inconnu aussi, l'angoisse de ne pas savoir ce qui va nous arriver. Puis la crainte, la peur, elle se manifeste aussi par la culpabilité. C'était finalement la première, je ne vais pas dire émotion, ce que Adam a ressenti la première fois qu'il a désobéi, c'est la culpabilité qui est née en lui. La première entrevue avec Dieu, il n'était pas bien, il était mal à l'aise. Alors cette culpabilité, elle peut se traduire par plein de choses, hein. Mince, j'ai encore raté, je suis vraiment nulle, j'y arriverai jamais, je fais toujours la même chose, la même erreur, je suis pas assez bien pour Dieu, les autres, eux, ils sont mieux que moi, eux, ils ont compris, eux, ils vivent avec Dieu, ils savent ce que c'est, mais derrière tout cela, il y a peur de ne pas être à la hauteur, pas répondre aux exigences que Dieu il a pour nous. Et en fait, non, Dieu n'a pas d'exigence pour nous. Dans l'amour, tout comme la peur, la culpabilité n'a pas sa place. En fait, c'est comme si le procès il avait déjà été prononcé pour nous. On a été acquitté, on a été gracié, on a été sauvé. Mais on veut continuer à essayer de faire quelque chose quand même. Et j'ai eu cette petite image qui m'est venue en tête. C'est comme si on jouait un match. On avait remporté ce match avec notre équipe. Ça y est, le coup de sifflet a été donné. Le score est écrit en gros. On sait qu'on a gagné. Mais nous, on continue à jouer, on continue à essayer de marquer des buts. On ne sait jamais, en fait. Mais finalement, ces buts, ils vont pas être pris en compte parce que ça y est, le match est terminé. Mais on essaye quand même, malgré tout. C'est fini. Game over. Terminé. Il y a suffisamment de points. Il n'y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit. L'amour nous prend comme nous sommes. L'amour, elle nous porte, nous soutient. L'amour nous élève même. Et s'il y a encore de la crainte, s'il y a encore de la peur, s'il y a encore de la culpabilité, ben ne culpabilisons pas. C'est écrit justement aussi. Dieu, Jean, juste à la suite, l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité et ça viendra. Ça viendra. Alors n'ayons pas peur de nous plonger dans cet amour que Dieu nous propose, de lâcher prise, d'y croire tout simplement. Bien sûr, hein, on ne parle pas de ressenti là ce matin. C'est pas, j'espère que vous l'avez bien compris. C'est de s'approprier les paroles que Dieu nous laisse, ses promesses qu'il nous fait. Il nous demande simplement de croire en sa parole, de croire ce qu'il nous dit, que Dieu est amour, que Dieu nous aime, que toutes ces promesses, que jamais rien ne pourra nous séparer de son amour. Peu importe ce que l'on ressent, mais de le croire déjà tout simplement. On peut très bien ne pas se sentir aimé d'ailleurs, hein, et pourtant être aimé quand même. Mais par contre, est-ce qu'on est prêt à recevoir cet amour? Est-ce qu'on est prêt à croire en cet amour-là? Et rappelons-nous, c'est vraiment parce qu'il sait tout de nous qu'il nous aime. C'est lui, c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement que de nous aimer, quoi qu'il arrive. Donc la seule chose qu'il nous demande, c'est simplement de croire en son amour. Croire au travers de son évangile. Jean, comme je l'ai dit, dans l'évangile, dans l'épître, il présente le salut de Dieu finalement vraiment en parlant de son amour. Et Jésus, Dieu, effectivement, a tellement concrétisé cet amour pour nous. On le sait tous, il est venu sur la croix. Il est venu en personne. Il est venu souffrir. Il est venu être limité, se limiter pour nous. La puissance de la croix, c'est vraiment la marque la plus forte de son amour. Mourir pour ses amis, c'est une chose. Mourir pour ceux qui le rejettent, c'est encore un degré en plus. Pour terminer, rappelons-nous que Dieu est amour, mais il est aussi l'amour. Alors, est-ce que nous sommes prêts à recevoir cet amour? Est-ce que nous sommes prêts à y plonger dedans pour ensuite peut-être le rendre concret aussi, nous, à d'autres? Rien de ce qu'on peut faire ne va déterminer l'amour de Dieu pour nous. Il est déjà disponible, il est déjà sûr, il est déjà acquis. Que ça fait du bien d'avoir un amour où on se sent en sécurité, où on peut lâcher la pression. Peu importe les circonstances, il nous aime, un point c'est tout. Qu'on puisse simplement en profiter. Je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, c'est tellement bon de pouvoir plonger dans ta parole, de découvrir toutes les richesses que tu as pour nous, tout cet amour que tu as en abondance pour chacun d'entre nous. Alors même que nous étions loin de toi, toi tu as déjà tout fait, tu as tout mis en œuvre et tu es allé jusqu'à la croix pour nous. Comment te dire merci, Seigneur? Merci, merci, merci pour cet amour qui nous prend comme nous sommes et que tu puisses simplement nous aider à y croire pleinement, à ancrer cela dans nos cœurs pour qu'on puisse en profiter tout simplement. Profiter de ce cadeau merveilleux que tu nous fais. Que toute la gloire te soit rendue, toi, le Dieu, amour. Amen.